VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 19 octobre 2021. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Nani Teutalani.
Pour commencer, les titres.
Au Soudan, le gouvernement du Premier ministre Abdallah Hamdok met en garde pro et anti-armée contre l'escalade.
Des émissaires du président Denis Sassou Nguesso entament une mission de conciliation de l'Union africaine en Libye.
Au Nigeria, une nouvelle attaque contre un marché dans le nord-ouest fait 43 morts.
En Éthiopie, l'armée a effectué des frappes aériennes sur Mekele, la capitale du Tigré en guerre.
Colin Powell, le premier secrétaire d'État africain-américain des États-Unis, est décédé hier à l'âge de 84 ans des complications liées au Covid-19.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Soudan, le gouvernement a mis en garde hier les manifestants qui réclament un régime militaire ainsi que les partisans d'un pouvoir civil contre toute escalade après la dispersion musclée d'une manifestation devant le siège du gouvernement à Khartoum. Les précisions de John Lindon.
Le cabinet du Premier ministre Abdallah Hamdok a annoncé la création d'une cellule de crise pour tenter de faire baisser les tensions au Soudan. Cette cellule est composée de 2 hauts gradés de l'armée et de 4 représentants des manifestants, à l'image des autorités de transition formées par des militaires et civils, a indiqué une source gouvernementale. 2 des 4 représentants des manifestants sont pro-civils, issus de la révolte ayant mis fin en 2019 au règne sans partage d'Omar el-Béchir. Les 2 autres viennent d'une faction dissidente de ce bloc qui veut maintenant remettre le pouvoir aux militaires. Un conseil de souverains composé de militaires et de civils supervise la transition avec le gouvernement dirigé par Abdallah Hamdok, un ancien économiste de l'ONU dont le pouvoir a failli être déstabilisé le 21 septembre par une tentative de coup d'État. Ces autorités intérimaires ont promis des élections libres pour fin 2023, une échéance mise en péril par les mobilisations actuelles qui font redouter des montées de tensions.
En Éthiopie, l'armée a mené hier des frappes aériennes sur Mekele, la capitale du Tigré en guerre, faisant au moins 3 morts selon une source hospitalière.
Le gouvernement avait dans un premier temps qualifié de mensonge total les informations de sources humanitaires, diplomatiques et médicales faisant état de bombardements, les premiers connus sur Mekele depuis le début du conflit il y a presque un an. Un média d'État a ensuite confirmé l'information, indiquant que des frappes aériennes avaient visé des cibles des rebelles du Front de libération du peuple du Tigré.
Le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui dirige le comité de haut niveau et le groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye, a dépêché hier une mission de conciliation en Libye dans la perspective de l'organisation de l'élection présidentielle prévue cette année. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
La délégation de l'Union africaine d'une dizaine de membres a été mandatée pour conduire en Libye une mission d'information, d'évaluation du processus devant mener à l'élection présidentielle prévue à la fin de cette année, a déclaré Jean-Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères, à son arrivée hier à Tunis. Sa délégation a prévu de rencontrer les principaux acteurs politiques, les chefs religieux, les notables et des leaders d'opinion, de Tripoli à Benghazi, en passant par Tobrouk et Misrata. Elle envisage aussi rencontrer des Libyens de la diaspora au Caire et à Tunis. À la fin de la mission, cette délégation se rendra à Brazzaville pour rendre compte au président Sassou Nguesso, qui va informer ses pairs de l'Union africaine, mais aussi ses homologues du groupe de Berlin, lors d'une rencontre sur la Libye que va organiser le président français Emmanuel Macron en marge du sommet de Paris sur la paix le 12 novembre prochain. La présidentielle en Libye a déjà été au menu des discussions entre le président Sassou Nguesso et le dirigeant libyen Mohamed Al-Memfi en visite fin juillet à Brazzaville.
Au Nigeria, un marché du Nord-Ouest a encore été la cible d'une sanglante attaque. la troisième en moins de mois, où 43 personnes ont été tuées dimanche soir dans le village de Goronio, dans l'état de Sokoto, par des hommes armés appartenant à un groupe criminel.
Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont depuis plusieurs années le théâtre de violences perpétrées par des groupes armés appelés localement bandits qui attaquent les villages, volent du bétail, pillent et kidnappent contre le versement de rançons.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Afrique du Sud, qui a eu des difficultés à trouver suffisamment de doses pour sa population de 50 millions, dont à peine plus d'un quart est vacciné à ce jour, a rejeté hier le vaccin anti-Covid russe Sputnik V. Selon l'Agence du médicament, l'utilisation du vaccin Sputnik V en Afrique du Sud, où la prévalence et l'incidence du VIH sont élevées, peut augmenter le risque pour les hommes vaccinés de contracter le VIH.
Le centre russe Gamaleya, qui a développé le vaccin Sputnik V, a déclaré dans un communiqué qu'il fournirait des éléments démontrant que les inquiétudes de l'Afrique du Sud sont totalement infondées.
Colin Powell, le premier secrétaire d'État américain, africain-américain des États-Unis, est décédé ce lundi à l'âge de 84 ans de complications liées au COVID-19. Sa famille l'a annoncé hier dans un communiqué précisant qu'il était bien vacciné. Le point avec Mouamadou Oumfa.
Il représentait les idéaux les plus élevés de la diplomatie et de l'armée, a salué hier le président Joe Biden. Il était un patriote à l'honneur et à la dignité inégalée, mais aussi un ami cher, a ajouté le président démocrate. Le monde a perdu l'un de ses plus grands hommes, a affirmé pour sa part l'actuel patron du Pentagone, Lloyd Austin. Dans un communiqué, l'ancien président George Bush a salué la mémoire d'un grand serviteur de l'État, très respecté dans son pays et à l'étranger. Son héritage et ses états de service inégalés ne seront pas oubliés, a déclaré l'ancien vice-président Dick Cheney. Colin Powell était une figure marquante et quelqu'un d'extrêmement compétent et intègre, a déclaré Tony Blair, ancien premier ministre britannique pendant la guerre en Irak. Monsieur Powell avait fait le 5 février 2003 devant le Conseil de sécurité de l'ONU une longue allocution sur les armes de destruction massive prétendument détenues par Bagdad pour justifier l'invasion de l'Irak. Par la suite, il a admis que cette prestation restera à jamais une tache sur sa réputation. Il va prendre ses distances avec le Parti républicain, soutenant en 2008 le candidat démocrate Barack Obama. Il avait annoncé en 2020 qu'il voterait pour Joe Biden, après avoir déjà voté en 2016 pour Hillary Clinton.
États-Unis toujours, l'administration Biden a formellement demandé hier à la Cour suprême de bloquer une loi restrictive sur l'avortement au Texas. Le point avec Abdulrahman Dia.
La loi adoptée au Texas est au cœur d'une bataille judiciaire féroce entre l'exécutif de cet État conservateur et l'administration Biden. Elle interdit l'avortement dès que les battements de cœur de l'embryon sont détectables, soit vers 6 semaines de grossesse. Le texte ne prévoit pas d'exception en cas d'inceste ou de viol. La jurisprudence de la Cour suprême garantit le droit des femmes à avorter tant que le fœtus n'est pas viable, soit vers 22 semaines de grossesse. Mais le texte de l'État du Texas comporte un dispositif unique. Il confie exclusivement aux citoyens le soin de faire respecter la mesure en les incitant à porter plainte contre les organisations ou les personnes qui aident les femmes à avorter illégalement. La Cour suprême, où les juges conservateurs sont majoritaires, avait déjà été saisie une première fois et avait donc invoqué ces questions nouvelles de procédure pour refuser de bloquer l'entrée en vigueur de la loi. Le gouvernement fédéral avait alors introduit une plainte contre le Texas. Le 6 octobre, un juge de première instance lui a donné raison et a suspendu la loi. Mais quelques jours plus tard, une cour d'appel a invalidé cette décision. La loi reste ainsi en vigueur pendant que la procédure judiciaire se poursuit. La balle est de nouveau dans le camp de la Cour suprême.
La Corée du Nord a lancé un projectile non identifié dans la mer, poursuivant une série de tests commencés il y a quelques semaines, a annoncé ce mardi l'armée sud-coréenne. Les services de renseignement sud-coréens et américains procèdent à une analyse minutieuse afin d'obtenir des détails supplémentaires, ajoute-t-elle. Le Japon a pour sa part annoncé le tir de deux missiles par Pyongyang.
Et ajoutons que le missile aurait été lancé à partir d'un sous-marin, selon Séoul. Pour revenir sur l'Amérique, l'ancien président américain Donald Trump s'est pourvu en justice pour bloquer la divulgation des documents de la Maison-Blanche relatifs à l'assaut de ses partisans sur le Capitole, selon un dossier judiciaire rendu public hier. Monsieur Trump a invoqué le droit de l'exécutif à garder certaines informations secrètes pour éviter que d'anciens collaborateurs fournissent des preuves au Congrès. La Minute Éco, John Lyndon.
Au Cameroun, les principaux indicateurs du marché sont restés sur une tendance évolutive au cours des 6 premiers mois de l'année. Selon Financial Afrique, pendant la période sous revue, les crédits bancaires sont passés de 3 908 à 3 943 milliards de francs CFA, ce qui représente une augmentation de 35 milliards de francs CFA malgré les effets de la pandémie de COVID-19. La reprise économique amorcée ces derniers mois dans les pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale devrait se poursuivre au quatrième trimestre, d'après les résultats de l'enquête de conjoncture réalisée par la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Les chefs d'entreprise de la sous-région anticipent, selon Financial Afrique, une amélioration de l'activité économique pour les fêtes de fin d'année et une bonne tenue des cours du pétrole. Ici aux États-Unis, le secrétaire américain au transport, Pete Buttigieg, a prévenu que les problèmes d'approvisionnement actuels vont continuer l'année prochaine et a plaidé pour trouver une solution de long terme. Des dizaines de navires sont amarrés à l'extérieur des grands ports de Los Angeles et de Long Beach sur la côte ouest dans l'attente de décharger leur cargaison. Ces deux ports représentent 40% du trafic de conteneurs du pays, a rappelé le ministre américain. Certains experts craignent des pénuries massives à l'approche des fêtes de Noël.
Merci John. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La nouvelle saison NBA débute ce soir avec une alléchante course à trois entre les Bucks de Gianni Antetokounmpo, tenant du titre, les Nets de Kevin Durant et les Lakers de LeBron James. L'ouverture de la saison régulière a un parfum de play-off avec d'abord un remake de l'équipe dernière finale de conférence Est entre Milwaukee et Brooklyn, puis un duel entre les Lakers en quête d'un 18e sacre record et les Warriors de Stephen Curry. L'apparition du vaccin permet un retour à la normale dans des salles pleines. Mais la NBA compte des réfractaires au vaccin parmi les joueurs, certes très minoritaires, 4%, mais qui font valoir leur liberté de faire ce que bon leur semble pour leur santé. Le plus célèbre de ces non-vaccinés est Kyrie Irving, empêché de jouer les matchs à domicile des Nets à Brooklyn. En vertu d'un décret de la ville de New York, il a été mis à l'écart par ses dirigeants qui n'acceptent pas qu'il ne soit disponible que partiellement. Football, la troisième journée de la Ligue des champions débute ce soir en Europe. Après sa victoire face au Manchester City 2-0, le Paris Saint-Germain doit confirmer son statut de leader du groupe A au Parc des Princes face au RB Leipzig. L'antenne rouge alors que les Citizens seraient bien inspirés de s'imposer à Bruges. Dans le groupe B, Liverpool affronte l'Atlético Madrid. L'autre match de ce groupe mettra aux prises le FC Porto et l'AC Milan. Dans le groupe C, les carottes semblent déjà cuites après deux journées. On ne voit pas comment l'Ajax en pleine forme et le Borussia Dortmund pourraient être rejoints avant Noël par le Besiktas ou le Sporting Portugal. Reste que les Néerlandais vont passer un sacré test face au Borussia en Turquie. Entre le Besiktas et le Sporting, le but sera au mieux d'obtenir une première victoire dans cette Ligue des champions ou à défaut un premier point. Dans la poule D, incroyable vainqueur du Real à Madrid 2-1, le shérif Tiraspol va tenter un nouveau hold-up sur la pelouse de l'Inter Milan. Du côté du Real, les coéquipiers de Karim Benzema seront en déplacement en Ukraine face au Shakhtar Donetsk. La FIFA organise ce mardi et jeudi des visioconférences pour recueillir le point de vue des sélectionneurs des équipes nationales masculines sur la réforme du calendrier international, en particulier sur l'hypothèse d'une Coupe du Monde biennale. Les points à l'ordre du jour seront la santé des joueurs, les périodes de matchs internationaux, La fréquence de la Coupe du Monde de la FIFA, entre autres, a précisé l'organe de gouvernance du football mondial dans un communiqué. Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la FIFA, souhaite mettre en place une compétition de sélection chaque année en alternant mondial et compétition continentale, tout en regroupant les qualifications sur le seul mois d'octobre ou en octobre et en mars. Un rapport complet doit être publié par la FIFA en novembre avant un sommet global d'ici la fin de l'année.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le général diplomate Colin Powell, premier secrétaire d'État africain-américain à la réputation entachée par son soutien à l'intervention en Irak, est décédé hier à l'âge de 84 ans de complications liées au Covid-19. Malgré cela, il reste un héros américain pour beaucoup. Pour un témoignage, Abdourahman Dia a joint ici à Washington Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Soldat, un bon diplomate, un bon général, un bon ministre des Affaires étrangères. J'ai travaillé avec lui quand il était le conseiller pour les affaires de sécurité nationale avec Frank Carlucci, il était l'adjoint. Et j'ai travaillé avec lui, j'ai été directeur pour les affaires africaines dans les deux dernières années du président Reagan, en 1986 et 1987. J'ai beaucoup admiré Colin Powell. Il est un patron qui tirait les meilleurs de tous ces gens qui travaillaient avec lui.
Alors, Colin Powell a été le premier Africain-Américain à avoir occupé le poste de chef d'état-major des armées. Il était aussi le premier Africain-Américain secrétaire d'État, fils d'immigrants, comme vous l'avez dit. Alors, pour beaucoup, il incarnait le rêve américain, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait, tout à fait. Il a prouvé que tout est ouvert pour tous les Américains, même si vous êtes dans une famille modeste et vous n'avez pas beaucoup d'argent.
Il a d'abord été connu dans le reste du monde avec la première guerre du Golfe en 1991, ce qui l'a rendu également populaire aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette époque avec ce que beaucoup appelaient la première guerre en direct?
Oui, il était un commandeur et les États-Unis ont fait une grande victoire contre Saddam Hussein, le dictateur de l'Irak. Il était un commandant d'un régiment là-dedans et c'était une victoire militaire formidable. Ils ont fait ça dans quelques jours. Donc c'était la première fois qu'il a attiré l'attention des gens plus importants, plus hauts.
Oui, mais ambassadeur Cohen, il y a une différence entre Colin Powell, le chef militaire charismatique qui a libéré le Koweït en quelques jours, comme vous l'avez dit, et Colin Powell, le diplomate, surtout après sa fameuse présentation devant le Conseil de sécurité en 2003, qui a justifié la deuxième guerre d'Irak.
La décision de faire l'invasion de l'Irak n'était pas à lui. C'était une décision du président Bush, son patron. Donc, il était un bon soldat qui suivait les ordres de son patron. Je crois que plus tard, il a avoué que la décision du président Bush était une erreur. Il ne fallait pas faire ça parce qu'il n'y avait pas des armes de grande destruction en Irak. Ces armes de grande destruction étaient détruites beaucoup, beaucoup avant ça.
C'était l'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Herman Cohen. Au Cameroun, le taux de mortalité néonatale a atteint 28 décès pour 1000 naissances, ce qui constitue un véritable problème. Pour venir à bout du fléau, une équipe d'ingénieurs a mis au point depuis 3 ans une couveuse interactive qui permet aux parents et médecins de suivre en permanence l'état de santé des nouveau-nés prématurés. Les détails avec Thierry Kaoré.
Dans cet hôpital de Bafoussam, des bébés prématurés, pesant parfois moins de 2 kilos, sont placés dans des couveuses made in Cameroun. Équipées de caméras, ces couveuses transmettent en temps réel tous les signaux vitaux des prématurés au personnel de santé et aux parents. Elles fonctionnent grâce à des batteries rechargeables par panneaux solaires, ce qui permet de faire face aux coupures d'électricité fréquentes dans le pays. Annie Mefutu est une infirmière dans le service pédiatrique de l'hôpital de Bafoussam.
Cette couveuse a plusieurs avantages, parce qu'avec ça, on peut faire le monitoring à distance des bébés, c'est-à-dire on peut contrôler les paramètres du bébé à distance. Et puis, avec la prévention aussi, les infections, les va-et-vient dans la salle, comme la maman n'a pas aussi accès tout le temps à la salle, étant même chez elle ou à l'extérieur, elle peut suivre son bébé, les moments de son bébé.
Isabelle Toumi, mère d'un nourrisson né prématuré, a été admise dans cet hôpital il y a 2 semaines et son bébé va déjà mieux.
Il est sorti avec un poids à moins de 2 kg. Il avait 1,8 kg. Bon, le centre où j'ai accouché, ils m'ont référé ici. Là. Et depuis ce jour, il a 2 semaines aujourd'hui. Il a déjà un bon poids. Bon, sa couleur aussi, la couleur de sa peau aussi, qui n'était pas bonne, il est rosé, comme on a pu constater tout à l'heure, c'est une bonne chose. Et aussi, il pleut normalement. Voilà. Pour moi, c'est bénéfique.
L'Agence universitaire pour l'innovation, à l'origine de cette initiative, a déjà vendu 18 couveuses à des hôpitaux publics et privés du pays. Serge Armel est l'un des ingénieurs qui ont conçu ces couveuses.
Déjà, elle fonctionne comme toutes les couveuses classiques, c'est-à-dire qu'elle offre aux prématurés l'étanchéité acoustique, les conditions thermiques idéales pour son développement. Tout ça par une régulation électronique. S'agissant d'un contexte particulier qui est le nôtre, on a tenu à ce que, en plus de ce contexte global, qui est donc une résilience particulière aux problèmes d'énergie, une interactivité pour permettre de le monitorer à distance, et puis du fait de notre présence, même une maintenance de proximité.
À 2 millions de francs CFA l'unité, les acquéreurs ont aussi la possibilité de payer par échéance. L'Agence universitaire pour l'innovation dit qu'elle travaille avec le ministère de la Santé du Cameroun afin de doter les hôpitaux de 1000 couveuses dans les 4 prochaines années.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Tchad, les personnes handicapées éprouvent d'énormes difficultés depuis l'apparition de la pandémie de COVID-19. Le trafic entre N'Djamena, Kousséri, une ville camerounaise, peut aider, mais depuis lors, les frontières entre les deux pays sont fermées. Le gouvernement de transition veut aider financièrement ces handicapés, mais ses efforts restent insuffisants. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar fait le point.
La fermeture des frontières entre les deux pays voisins depuis mars 2020 à cause du COVID-19 impacte négativement leur lutte pour la survie.
Il y avait eu des débrayages entre les autorités et des personnes handicapées. Il y en a qui se sont même retrouvés de l'autre côté de Kousséri. Et il a fallu que le gouvernement camerounais puisse vraiment les renvoyer de force à N'Djamena. Tout ça, donc c'est une situation un peu déplorable.
Jim Nayal Rubkidi, secrétaire général de l'Union des associations des personnes handicapées du Tchad. Une cinquantaine de personnes qui ont bravé l'interdiction pour se constituer réfugiés à Kousséri en juillet dernier ont été ramenés manu militari à N'Djamena. Elles ont reçu pour l'ensemble une assistance d'une valeur de 5 millions de francs CFA du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de la Petite Enfance. Shérif Alati Galmaï est le directeur technique de l'Action Sociale.
Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de la Petite Enfance est conscient de ce que vous traversez depuis votre retour de Kousséri. C'est pourquoi nous venons aujourd'hui, par ces gestes minimes soit-il, vous dire que nous sommes à vos côtés et que d'autres actions en votre faveur seront faites dans le futur pour vous permettre de vous prendre en charge.
Pour Jim Nayal Rubkidi, secrétaire général de l'Union des associations de personnes handicapées du Tchad, traiter de façon sectorielle la question des personnes handicapées ne va pas régler le problème.
Par exemple, le gouvernement a formé récemment 100 personnes handicapées qui étaient des femmes. Si, par exemple, ces 100 femmes avaient eu des kits pour exercer, je crois que ça va absorber une partie des personnes handicapées. Par exemple, les 5 millions qu'ils ont remis à ces groupes de personnes, ça crée une
une division entre nous déjà. Comme aujourd'hui, nous sommes dans l'agro-business et autres. Faire un truc jardinage où les gens sont là, mais qu'on oriente les partenaires pour venir acheter avec eux, c'est des solutions comme ça, pérennes qu'on cherche.
Les bénéficiaires sont déjà au couteau tiré. Madame Asgada Lémilienne, handicapée physique, dit n'avoir pas reçu un seul centime alors qu'elle affirme avoir lutté corps et âme avec les autres.
Nous, les femmes, vraiment, on est souffrant, ça. Ils sont en train de parler, radio, vous voulez, ils sont partagés, mais nous, on est partis à pousser, même pas jusqu'à là, je n'ai pas trouvé. Chaque là, vraiment, c'est un handicapé, mais on est vraiment méchants.
Pour Ali Oussoumbede Justin, porte-parole d'une cinquantaine de personnes handicapées qui ont bravé la peur en se constituant elles-mêmes réfugiées à Koussiri pour exiger l'ouverture des frontières, les 5 millions sont destinés à ses camarades de lutte. Chacun d'eux recevra environ 100 000 francs CFA pour payer au moins 6 mois de loyer et non pour tout le monde.
Le partage est équitable. Lorsqu'on était à Koussiri, ils sont partis le premier jour. Après, ils disent non, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ne vont pas dormir là. Mais nous, on ne va pas continuer à dormir là-bas et puis ils vont venir gagner. Non, eux, ils ont peur. Ils disent peut-être la police viendra nous jeter la chromogène.
Les personnes handicapées menacent de lancer une journée sans tricycle dans les tout prochains jours si la mesure fermant les frontières n'est pas levée. André Kodouma Dingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Ici aux États-Unis, un groupe consultatif a approuvé récemment à l'unanimité les injections de rappel du vaccin Johnson & Johnson contre le COVID-19 pour les adultes de plus de 18 ans. Cette décision intervient alors que les vaccins et les protocoles de santé publique restent des problèmes politiquement chargés. Un reportage d'Arash Arabasadi repris ici par Lionel Gahima.
Les injections de rappel du vaccin à dose unique Johnson & Johnson, COVID-19, se sont rapprochées de l'approbation à la fin de la semaine dernière. À la suite du vote unanime d'un groupe consultatif de la puissante FDA, Agence américaine pour les médicaments et l'alimentation, avant le feu vert attendu de la FDA. Les conseillers ont mentionné la préoccupation croissante que le vaccin J&J, comme on l'appelle communément, semble offrir moins de protection au fil du temps que les injections Pfizer et Moderna. Le docteur Anthony Fauci, conseiller du président américain, a déclaré à la chaîne ABC cette semaine que la nation va suivre les données en provenance d'Israël, qui a au moins un mois d'avance sur les États-Unis en termes de recherche sur le vaccin.
Avec les données qu'il voit sur la diminution de l'immunité ainsi que sur l'avantage de stimuler les personnes des différents groupes d'âge, les données que nous commençons à voir en Israël indiquent que même dans un groupe un peu plus jeune, par exemple de 40 à 60 ans, il y a un réel avantage à recevoir les injections de rappel.
Le docteur Fauci ajoute que les États-Unis vont en conséquence modifier leurs recommandations sur les vaccins. Dans certaines parties du pays, les obligations croissantes des employeurs publics et privés ont provoqué des protestations contre la vaccination obligatoire, comme dans cette usine de Boeing dans l'État de Washington. Le gouvernement républicain du Texas, Greg Abbott, a récemment publié un décret contre les vaccins obligatoires, défiant les appels du président Joe Biden à toutes les entreprises d'au moins 100 employés d'exiger la vaccination ou des tests réguliers. Le gouverneur républicain de l'Arkansas, Asa Hutchinson, estime qu'on ne doit pas empêcher les employeurs d'exiger la vaccination de leurs employés, bien qu'il s'oppose à de telles mesures imposées par le gouvernement fédéral. Il a pris la parole dimanche dans Meet the Press sur la chaîne NBC.
Les États arrivent parfois et disent: les employeurs ne devraient pas imposer une exigence de vaccination à leurs employés. Pour moi, c'est la mauvaise direction. Ce n'est pas pratique en termes de débat, mais ce n'est pas non plus fondé sur des principes.
Pendant ce temps, la recommandation du panel de la FDA vendredi s'appliquerait à tous les receveurs du vaccin J&J âgés de 18 ans et plus, au moins 2 mois après leur vaccination initiale. La mesure fait suite au plan de la Maison-Blanche annoncé en août pour une vaste campagne de rappel. Mais la semaine dernière, lorsqu'Israël a donné son autorisation pour une troisième dose de vaccin pour certaines personnes, l'Organisation mondiale de la santé a prévenu qu'administrer une troisième dose ne fait aucun sens tant que la quasi-totalité de la population des pays pauvres n'a pas encore vu l'ombre d'une seule dose. L'OMS critique les pays riches, les taxant d'égoïsme. Pour le directeur général Theodoros Adhanom Ghebreyesus, si la solidarité ne fonctionne pas, tout le monde sait pourquoi. C'est à cause de la cupidité. L'agence onusienne demande aux fabricants de vaccins de ne pas donner la priorité aux commandes de troisième dose aux pays qui ont déjà un taux de vaccination élevé. L'OMS appelle plutôt à se tourner vers COVAX, dont les livraisons de vaccins vers les pays pauvres sont quasiment à l'arrêt.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et de Nani Talani, Georges-Léonard Sagno à la mise en onde, Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute.